LSD, la série documentaire. Un podcast France Culture.
Attention, certains des propos qui vont suivre peuvent heurter la sensibilité des personnes non averties.
À un moment, la journaliste me demande si je m'étais interrogée sur la raison pour laquelle des meurtres tels que ceux du Michigan ou celui de ma tante se produisent. Bien sûr, je lui réponds. Mais je pense que ce n'est pas la bonne question. Comme elle ne réagit pas, j'ajoute, la question du pourquoi semble trop évidente. Elle me fond aussitôt dessus. Si c'est évident, dites-nous donc pourquoi cela se produit. Que puis-je donc répondre? Tous les hommes détestent les femmes et les hommes sont des animaux? Essentiellement le domaine de l'érotisme et le domaine de la violence, le domaine de la violation? Dans notre société vivent bel et bien des individus horribles et terrifiants. Ou à l'inverse? Mon Dieu, je n'en ai pas la moindre idée. Comment pourrais-je comprendre les actes répugnants, dépravés, monstrueux que les êtres humains perpétuent sur leurs semblables depuis la nuit des temps? Autant mettre cela sur le compte de l'antique soif de sang des Grecs et des Romains? Ces deux réponses proviennent d'un script dont je souhaite m'extraire. Un script proposant deux fins également paresseuses. Le cynisme ou l'incrédulité. Aucune ne convient. Aucune n'est satisfaisante. Jane, un meurtre. Maggie Nelson.
Féminicide, la guerre mondiale contre les femmes. Un documentaire de Pauline Chanu, réalisé par Marie Placé. Épisode 4, il voulait nous enterrer.
Alors moi, ce que je trouve assez inouï dans le mot féminicide, c'est le « parce que ». C'est-à-dire, quand j'ai découvert que le féminicide, c'est le meurtre d'une femme parce que femme.
Hélène Frappa, écrivaine.
C'est un terme de causalité, le « parce que ». Et justement, c'est un mot qui exhume l'aberration totale de la causalité, à la fois sa dimension littérale, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se raconter des histoires et de raconter autre chose que parce que femme, et en même temps le fait que ça n'a évidemment aucun sens. Et c'est pour ça aussi peut-être que j'aime pas le mot auteur de féminicide. Le parce que il est sans auteur, en fait. Le parce que il est anonyme. Le parce que c'est on. Le parce que c'est une longue histoire, une histoire sociale, c'est le mari en général, c'est-à-dire personne, ce qui ne l'empêche pas de tuer quelqu'un, quelqu'une. C'est le petit ami en général, l'homme en général, etc. Donc encore une fois, personne, sinon un individu qui est traversé par toute cette histoire-là et qui en arrive à cette dépersonnalisation du langage humain à travers un « parce que », c'est-à-dire employer une causalité dans un contexte où ça n'a aucun sens, sinon un vieux sens historique, social, d'une mise à mort des femmes acceptées dans la chambre conjugale. C'est ça que ça nous raconte. Pour moi, ce que nomme aussi ce terme de féminicide, c'est l'idée de mort sans sépulture. Et je pense que c'est pour ça que ce terme a été inventé, pour leur donner une sépulture sociale, pour leur offrir ce que Nicole Laureau, dans son texte extraordinaire « Façon tragique de tuer une femme », appelle la gloire, le kleos, c'est-à-dire cette épitaphe, cette oraison funèbre, cette gloire des femmes, cette mémoire collective que les femmes n'ont pas. Donc c'est cette question qu'est-ce qu'une belle mort en fait? Qu'est-ce qu'une mort? Alors au sens de cette mort athénienne au 5e siècle dont elle parle, c'est la belle mort virile. C'est la mort au combat, c'est la mort en dehors de la maison. Donc que faire de ces morts muette, silencieuse, sans gloire, dans l'espace privé, Privée de quoi ? Privée de visibilité, privée d'écoute. Et on en revient toujours à la question de la voix, en fait. Et je pense que c'est pour ça que c'est tellement important que, dans quasiment tous les cas de féminicide, l'homme va revendiquer qu'il voulait faire taire sa femme, que sa voix lui était insupportable. Il va scotcher sa bouche, comme dans le cas de l'assassinat de Giulia Cecchettin en Italie avant de l'assassiner. Et que ça passe toujours par là, en fait. Nicole Leroux, dans son livre « Façon tragique de tuer une femme », elle parle de cette voix étouffée, de cette mort sans bruit des femmes. Elle dit « On ne voit pas la mort d'une femme, mais seulement une femme morte ».
Oui, il y a ce petit opuscule fascinant de Nicole Leroux qui s'appelle « Les mères en deuil » et qui raconte la manière dont le deuil a été d'une certaine façon réglementé dans l'Antiquité grecque.
Ouria Bentouami, philosophe, spécialiste des féminismes intersectionnels.
Et elle raconte justement comment est-ce que quelqu'un comme Solon a limité non seulement la durée du temps du deuil des femmes, mais également limiter aussi le nombre de morts que l'on peut pleurer à la fois, pour éviter toute forme de trouble à l'ordre public. Donc il y a cette idée-là, effectivement, qu'il ne faut pas pleurer plus que la morte du jour. Et ce que font à l'inverse, justement, aujourd'hui, les colleuses, mais on est plusieurs féministes dans ce cas-là, c'est qu'on fait un travail, j'appelle ça un travail de thanatopraxis féministe, et on prend soin des mortes en pleurant justement plus que la morte du jour, ce qui permet de déprivatiser la mort. C'est-à-dire que je ne vais pas simplement pleurer ma mort, celle que je connaissais, mais toutes celles que je ne connaissais pas en même temps.
Il y a un féminicide dans l'histoire de la littérature qui, pour moi, n'a jamais vraiment été encore élucidé comme tel. C'est le
Hélène Frappa.
L'assassinat par William Burroughs en 1951 au Mexique de sa femme Joan Vollmer. Il a raconté qu'il avait joué à Guillaume Tell, en posant un verre donc sur la tête de sa femme, qu'il a en fait assassiné d'une balle dans la tête, et il a fait très peu de jours de prison ensuite. Je crois que c'est une histoire qui m'a toujours remplie d'un effroi qui me paraissait assez peu partagé, puisque cet épisode semble toujours remplir une fonction dans le mythe de l'écrivain et de l'artiste William Burroughs, mythe qu'il a lui-même créé, puisque plusieurs décennies, même après avoir assassiné sa femme, il a écrit donc dans la préface de son livre Queer, je cite, je vais essayer de faire la traduction du texte parce qu'elle est tellement gratinée. Je suis contraint d'en venir à l'effroyable, et même je dirais, il dit littéralement la répugnante, appalling, conclusion, que n'eût été la mort de Joan, je ne serais jamais devenu écrivain. Donc il n'aurait écrit que parce que, et on en revient exactement au sens même du mot féminicide, c'est-à-dire à cette perversion de la causalité, là, ce parce que ce serait « j'ai pu devenir écrivain parce que j'ai assassiné ma femme ». Et en même temps, Burroughs peut dire qu'il ne l'a pas assassiné, que c'était un accident, tout en niant que c'était un accident. En revanche, ce qu'il ne peut pas nier, c'est que cette femme est morte. Joan Vollmer, elle a été assassinée d'une balle dans le front. Alors le front, c'est le lieu de la pensée, on pourrait dire. Là, c'est pas la bouche, c'est le cerveau. Alors, je voudrais lire cette citation dans son livre Interzone. Il écrit, je cite, « J'ai lu, je ne sais où, qu'une poulette avait pu survivre une semaine sans tête, alimentée par sonde, posée de façon à empêcher le cou de cicatriser et de se suturer, exactement comme le ferait le con si elle ne le rouvrait pas tous les mois à coups de vide pomme pour se vider de son sang vicié. » C'est vrai, quoi, une gonzesse a pas besoin de tête de toute façon. C'est la question de la haine.
Ce qui s'est passé pendant 5h30 entre Jane et son meurtrier est un abîme si noir qu'il pourrait avaler tout un soleil, sans laisser la moindre trace. Il suffit de bien tendre l'oreille pour entendre le rythme de cette douleur. Jen avait pris 2 balles dans la tête, une part devant et une part derrière. Elle errait à la recherche de quelqu'un qui pourrait les lui retirer du crâne. Elle n'était pas encore morte, mais craignait d'être mourante. Les impacts étaient parfaitement exsangues et ronds, les bords cautérisés, 2 éclipses. L'air qui passait à travers les trous créait une sensation étrange, une douleur un peu sourde. Le soleil éclairait la circonférence de ces 2 croûtes noircies, si bien qu'un long rayon de lumière pâle sortait du milieu de son front et un autre à l'arrière de son crâne. Mais en vérité, elle perdait la lumière. Celle-ci s'échappait de tous les côtés, impossible à retenir.
Jane, un meurtre. Maggie Nelson. Enquête sur le féminicide de la tante de Maggie Nelson, assassinée par un tueur en série en 1969.
Quand les vies manquent, quand il y a des corps qui manquent, c'est avec cette idée-là que, c'est au double sens du terme, c'est un prélèvement. Si on pense à un prélèvement, c'est-à-dire dans la manière dont des femmes ne sont plus visibles, on ne les voit plus, en raison d'une mort prématurée, donc d'une mort violente.
Ouria Bentouami.
Et elles sont aussi manquantes au sens où elles manquent à quelqu'un. Et ça, c'est fondamental, c'est-à-dire qu'il y a aussi cette dimension affective qui est très puissante, c'est-à-dire cette idée-là aussi qu'il n'y a pas d'impunité affective, il y a une forme de mélancolisation qui se produit quand une femme meurt, elle manque à d'autres femmes qui ne la connaissaient pas forcément. Donc il y a aussi une manière, quand on parle de femmes manquantes, au-delà simplement de la pure statistique, il y a également une forme de soustraction, en fait. On soustrait des femmes véritablement du vivant, des relations sociales.
Je suis Geeta
Aravamudan.
Je vis à Bangalore.
This is my hometown.
Ma ville natale dans le sud de l'Inde. Je n'ai pas toujours écrit sur les violences faites aux femmes. J'ai commencé par des sujets politiques, économiques. Puis j'ai pris conscience que j'avais le privilège, en tant que femme dans le journalisme, d'investiguer sur les différents crimes faits aux femmes.
So my first book, Disappearing Daughters, was about female feticides.
J'ai écrit mon premier livre, Nos filles disparues, qui traitait des féticides des petites filles, qui sont des avortements sexo-spécifiques.
I first came across infanticide in a place called Uslampattu, Tamil Nadu.
J'ai d'abord été confrontée à la question de l'infanticide des petites filles pour la première fois en 1990 dans l'état de Tamil Nadu à Uslampattu. Leurs propres mères les tuaient juste après leur naissance. Ces rencontres ont été un vrai choc pour moi.
In Uslampattu, where I went, the baby was fed with a drop of poison.
À Uslampattu, les bébés étaient empoisonnés. Parfois, ils étaient étouffés avec des oreillers ou noyés dans un seau de lait. Au Punjab, ils étaient enterrés vivants. Et j'ai montré dans mes recherches que c'était une pratique répandue partout dans le monde, bien sûr sur le continent asiatique, mais pas que. Quand je suis retournée en 2000 à Uslampattu, l'infanticide avait complètement disparu. C'est grâce à la technologie, car avec le développement des échographies, ils peuvent connaître le sexe de leur bébé et avorter quand ils savent que c'est une fille. C'est illégal en Inde d'avorter en fonction du sexe du bébé, mais malgré tout, tout le monde le fait, surtout les plus riches qui payent très cher des médecins pour faire des tests illégaux. J'ai parlé à beaucoup de femmes qui se sont débarrassées de leur bébé et elles m'ont expliqué qu'il y avait plusieurs raisons à ça. D'abord, elles disent que les filles ne sont pas en sécurité dans cette société et qu'elles avaient peur de ne pas pouvoir les protéger des attaques, des viols. La seconde, c'est que les filles doivent donner une dot, une somme d'argent élevée quand elles se marient. Et la troisième raison, c'est que les familles croient que les garçons les aideront davantage dans leurs vieux jours. Mais c'est un mythe. Je crois que les filles soutiennent beaucoup mieux leur famille que les garçons. En plus, les femmes qui ensuite n'arrivent pas à produire de bébés garçons se voient stigmatisées par les familles. Elles peuvent être en quelque sorte répudiées par un mari qui choisira une autre génitrice. Ou bien elles peuvent être battues.
Dans les féminicides, il y a quelque chose qui est dit de la fongibilité du corps des femmes. C'est-à-dire, fongible, c'est le fait de n'apprécier une chose que par le fait qu'on puisse l'échanger contre une quantité équivalente. Et effectivement, il y a cette idée-là que quand je peux soustraire une femme du monde, parce que il y aura un équivalent fonctionnel, charnel, etc., qui sera toujours disponible. Et qui est une manière aussi de dire que les femmes ne sont pas propositions de monde. Parce que tout le monde est singulier, tout le monde est un monde vécu, etc. Et normalement, chaque femme est un monde au sens où c'est un corps vécu, vous voyez. Et donc, il y a cette idée-là où on va réduire le corps à ce qu'il est, simplement un corps vivant, anatomique, si vous voulez, et on va justement essayer d'extirper en lui tout ce qu'il y a de corps vécu. Donc il y a dans les pratiques cette fois-ci de reprendre nos corps en main, faire que nous soyons une totalité si nombreuse que nous en soyons indénombrables, et en même temps on se compte les unes les autres. C'est un paradoxe, mais c'est un paradoxe que je trouve très beau. C'est ça le nous toutes, véritablement. Donc on sera, même si on ne sait pas combien on est, et ça doit rester indéterminé, on sait quand l'une de nous manque. En tout cas, c'est la proposition très forte, très puissante politique qu'il y a derrière ce nous toutes et pas une de moins.
You know, at one time, an economist told me.
Vous savez, un jour, un économiste m'a dit, à propos de l'effondrement démographique des filles, que lorsque les biens devenaient rares, ils prenaient de la valeur.
Gita Aravamudan.
Et comparez donc les femmes à des biens matériels. Mais ils se trompaient. C'est le contraire qui arrive. Aujourd'hui, il y a 80 à 85 femmes pour 100 hommes en Inde. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une pression énorme aujourd'hui sur les femmes, car les hommes sont désespérés de ne pas pouvoir se marier. Il n'y a plus assez de femmes dans leur communauté pour se marier. Alors ils vont les chercher dans les régions les plus pauvres, les achètent et les ramènent chez eux.
Also, I have noticed is the women have become much more confident now. They say we don't want to marry.
Mais d'un autre côté, j'ai remarqué que les femmes commençaient à prendre confiance en elles. Elles disent qu'elles ne veulent plus se marier, qu'elles ne veulent pas être de simples usines à bébés mâles. Elles commencent à réaliser qu'en tuant leurs propres filles, elles créent des problèmes pour elles-mêmes. Les femmes ne sont pas autorisées à respirer. Et même avant leur naissance, elles sont déjà asphyxiées. Comment alors créer un monde plus respirable pour elles? Même après leur naissance, elles grandissent dans des murs, dans des structures sociales qui les étouffent, dans lesquelles il y a tant d'interdictions et d'injonctions.
Je pense que l'une des meilleures façons for the world to become more breathable is not to focus on the women, but to focus upon the men.
Nous devons nous concentrer davantage sur les hommes que sur les femmes. C'est à leur tour de les soutenir, de les aider et de créer de nouvelles structures sociales pour construire un monde plus respirable.
More breathable for them. The women want to breathe, but the men should allow them to breathe.
Les femmes veulent respirer, mais les hommes doivent les y autoriser.
Moi, quand j'avais 10 ans, je n'avais pas de modèle d'identification féminin, à part quelques exemples qu'on m'apprenait à l'école, comme Jeanne d'Arc. Les femmes dont on nous parlait à l'école quand j'étais petite, Jeanne d'Arc exécutée, Marie-Antoinette exécutée, Louise Michel déportée.
Christelle Tarot, historienne, directrice de l'ouvrage collectif « Féminicide, une histoire mondiale ».
Tout notre habitus culturel est saturé par la violence faite aux femmes. Saturé. Et nous, on a été domestiqués à l'accepter et à ne pas nous révolter à chaque fois qu'on le voit. Or, chaque femme devrait être une insurrection, en fait. Chaque femme devrait être une insurrection. Et on est acclimaté à la mort des femmes parce que on a des tonnes d'exemples où on tue des femmes et où personne ne se pose de questions. Quand on lit les contes pour enfants, on est stupéfait en fait, de voir à quel point la violence contre les femmes y est banalisée. Moi, quand j'étais petite, la Barbe Bleue me faisait très peur et je ne comprenais pas pourquoi. Il a fallu que je travaille sur les féminicides pour comprendre que ce qui me faisait peur, c'est qu'on puisse accrocher des femmes comme des manteaux dans une pièce obscure et que ces femmes qui étaient accrochées dans cette pièce obscure, c'était des femmes qui avaient été tuées. Et pourquoi avaient-elles été tuées ? Parce qu'elles avaient été suspectées d'adultère. Parce que le sang sur la clé, c'est exactement ça, en fait, que ça matérialise. Ça matérialise la trace que la femme n'a pas respecté le contrat pour lequel elle a été épousée, qui est le contrat de pureté et de chasteté. Et ça, c'est en arrière-texte. Et quand tu lis à l'adolescence Shakespeare, Othello, et que tu vois la manière dont Othello exécute Desdémone pour les mêmes raisons, suspicion d'adultère, et si tu ajoutes à ça toutes les filles qui sont sacrifiées, par exemple, par des pères, la figure du père sacrificateur, c'est de la fille innocente, c'est un topos, hein. On retrouve ça dans plein de cultures différentes. Évidemment, celle qui nous vient le plus spontanément à l'esprit, c'est la guerre de Troie, c'est Iphigénie. Mais des Iphigénies, il y en a à toutes les époques et dans toutes les sociétés. Donc voilà, donc toute cette violence contre les femmes en sous-texte introduit un régime d'impunité que les femmes ont accepté et que les hommes ont revendiqué. Et c'est ça qui, au final, produit des meurtres. Donc si tu n'as pas un outil qui permet en fait de saisir l'ensemble de la gamme, bah, tu te prives d'un élément d'analyse essentiel pour éradiquer les féminicides. Parce que l'objectif de tout ça, c'est de construire une société où il n'y aura plus de féminicides et plus de féminicidaires, évidemment.
Il est une bête et une seule qui hurle dans les bois la nuit. Horreur. Son long hurlement modulé. Un aria de frayeur rendu audible. Le chant du loup est le bruit du tourment qu'il vous faudra souffrir. En lui-même, c'est déjà un meurtre. De tous les périls qui grouillent la nuit dans la forêt, fantômes, gnomes, ogres qui grillent des nourrissons, sorcières qui engraissent leurs captifs dans des cages pour des tables cannibales. Le loup est le pire, car il ne peut prêter l'oreille à la raison. On est toujours en danger dans la forêt, il n'y a personne. Mais les loups possèdent des moyens d'arriver jusqu'au cœur de votre foyer. Malgré tous nos efforts, il arrive que nous ne puissions les tenir en lisière. Redoutez le loup. Fuyez-le, car pire encore, le loup peut être plus qu'il ne semble.
Je pense que les contes nous ont toujours alertés très précisément, ne serait-ce que parce qu'une partie de ces contes, si on pense par exemple aux contes de Grimm, ont été originellement des récits qui ont été collectés à partir de récits qui étaient racontés par des nourrices, des femmes qui les racontaient. Et donc tous ces récits-là nous disent très littéralement que le danger, il est à l'intérieur.
Hélène Frappa, écrivaine.
Sans aller jusqu'à Barbe Bleue, qui est l'un des plus explicites, mais Peau d'âne, enfin l'inceste. Dans Le Petit Chaperon Rouge, on voit bien que la figure du loup, de la grand-mère, tout ça, ça se passe dans le foyer. Il lui arrive rien dans la forêt, en fait, au Petit Chaperon Rouge. Donc on est dans ce savoir-là, on est dans le savoir des faibles, on est dans le savoir de tous ceux qui sont dans l'espace domestique, les petits-enfants, les petits animaux, les animaux qui sont là, les femmes tous blottis les uns contre les autres, contre cette sorte de présence fantomatique des hommes à l'extérieur de la maison, qui partent. Ils partent faire la guerre, ils partent conquérir des royaumes. Mais leur retour est toujours une menace. C'est ça que ça raconte, toujours les contes. Et littéralement, il ne cesse de nous raconter depuis toujours des féminicides. En tout cas, la menace, la peur, l'inquiétude, la terreur que les faibles vont vivre en attendant le retour de celui qui a le pouvoir sur eux. Le pouvoir de vie et de mort.
La fille vit les mâchoires du loup commencer à saliver. La pièce était pleine de la clameur du chant de mort dans la forêt. Mais l'enfant sagace ne flancha pas un instant, même lorsqu'il répondit « C'est pour mieux te manger ». Elle éclata de rire. Elle se savait la viande de personne. Elle lui rit au nez. Elle arracha sa chemise et la jeta au feu dans le sillage flamboyant de ses propres vêtements. Et puisque sa peur ne lui servait à rien, elle cessa d'avoir peur. La compagnie des loups. Angela Carter.
On peut se demander, d'une certaine manière, pour reprendre l'expression de Virginie Despentes, si la bonne meuf, c'est pas la femme morte, en fait, au fond. Alors, c'est vrai qu'il y a une... Il y a une cadavérisation, enfin il y a un marché du cadavre de la femme. Nous héritons tous de ces lignées de femmes mortes dont se nourrissent la mythologie des œuvres, notamment masculines, qui s'édifient sur leur sang, etc. La question c'est qu'est-ce qu'on en fait de ces femmes mortes ?
Le cri d'effroi dans les films d'horreur, où à chaque fois c'est face justement à quelque chose d'inattendu.
Ouria Bentouami.
C'est toujours la violence inattendue, par surprise, effectivement de l'intrus, de celui qu'on ne connaît pas et qui vient s'introduire chez nous, ou alors c'est la mauvaise rencontre, etc. Et donc ce cri-là, qui est typiquement féminin, c'est toujours aussi, il y a une sorte d'esthétisation de la terreur féminine. Et aussi pour marquer une forme d'impuissance féminine à riposter ou à résister.
Je m'appelle Maïté Prompt, j'ai 37 ans. Depuis pas longtemps, et je suis paysanne et éleveuse bergère en Ardèche. J'élève des brebis, j'ai 300 brebis mérinos que je conduis en système pastoral et transhumant. L'été, je monte dans les Cévennes à pied avec mon troupeau à 1000 mètres d'altitude et puis je fais tout à pied. Je monte à pied, je redescends à pied. À 15 ans, quand il a fallu choisir une orientation professionnelle, je savais déjà que je voulais être bergère. Donc j'imaginais d'être dans les grands espaces, d'être dans l'air frais, d'être avec les animaux, d'être en toute quiétude, dans les hauteurs. Et je me disais que c'était ça la vraie vie pour moi.
Est-ce que c'est ce que vous avez trouvé ?
Ouais. Entre autres, ouais. Ouais, bien sûr, là, je suis complètement en accord avec... avec ce que je veux faire et qui je veux être. Je dirais que c'est une espèce d'harmonie entre nous tous au quotidien.
Et nous tous, c'est qui ?
Les chiens, les chèvres, la naisse, l'environnement, mes brebis et moi. J'ai été 10 ans bergère salariée dans les Alpes, l'été, donc en alpage, à 2000 mètres, je gardais les troupeaux toute seule. Nous, on a embauché les bergers, on est salariés d'éleveurs. C'est souvent eux qui sont chefs d'exploitation, c'est les patrons, c'est eux qui dirigent, c'est eux qui gèrent leur ferme. Et dans ces systèmes-là, les femmes, elles n'ont pas beaucoup leur place ou au foyer ou pour faire les papiers, l'administration, le fromage ou la vente, ou, enfin voilà. Et effectivement, on sent bien cette domination patriarcale. Je sais pas, mais c'est vrai qu'on est un fantasme parce qu'on est toute seule en montagne et ça crée beaucoup d'intérêt quoi, de la part des hommes qui habitent dans les vallées en bas. Et on est dans des endroits un petit peu arriérés, quoi, dans des mentalités où le droit de cuissage il existe encore presque. Hein, donc... voilà, c'est hyper lourd en fait. On se sent épié, on est observé aux jumelles, on est peut-être des fois à 4-5 heures de marche d'approche. Des fois, on a des cabanes qui ne ferment pas à clé. On n'est pas en sécurité et souvent, c'est nos employeurs qui nous agressent. Et la plupart des gens, même là pour ma maison, on me dit souvent « Mais t'as pas peur toute seule à vivre dans les bois? Mais t'as pas peur toute seule en montagne ?» Bah non, moi dans la nature, j'ai pas peur. Par contre, aujourd'hui, qu'est-ce qui me fait peur? Bah c'est l'homme en fait. C'est l'homme. J'ai peur que de ça en fait. On nous fait croire que dans la nature, on peut avoir peur de... Je sais pas, des esprits du noir, du bruit, des feuilles... On fait tout un mythe autour du loup. Bon, le loup, il n'a jamais trop agressé d'humains, en tout cas, là, en fait, dans nos jours. Mais moi, je me sens parfaite sécurité dans la nature. C'est mon refuge, en fait. Je m'y sens bien, je m'y sens... je suis chez moi, en fait, dans la nature.
C'était peut-être trop tôt. Il est peut-être trop tard maintenant, hasardais-je. Il n'est jamais tard. Mais je crois que dans l'au-delà, tout est ensemble et emmêlé. Ça fait comme une pelote de laine. Il faut être patient, tirer lentement sur le bout de laine. Tu connais l'histoire de la Wessera? Je fais nom de la tête. C'est une vieille, très vieille dame qui vit dans un recoin de l'âme. Une vieille femme sauvage qui caquette comme les poules, chante comme les oiseaux et émet des sons plus animaux qu'humains. Son rôle est de ramasser des os. Elle rassemble et garde tout ce qui risque de se perdre. Sa cage est remplie de toutes sortes d'os d'animaux, mais elle aime par-dessus tout les os de loup. Pour les trouver, elle peut parcourir des kilomètres et des kilomètres, grimper sur des montagnes, franchir des ruisseaux aguets, brûler la plante de ses pieds sur le sable du désert. De retour dans sa cabane, avec une brassée d'os, elle compose un squelette.
Alors c'était en 2016 et je me suis fait embaucher par un groupement d'employeurs en Savoie pour garder le troupeau tout l'été. Et ma compagne m'a rejoint, elle était en vacances scolaires, etc., passer l'été avec moi là-haut. Et c'est vrai que deux femmes là-haut, en couple, de lesbiennes, alors là, ça a créé encore plus de fantasmes, je pense, de la part des hommes. Donc on n'était pas trop vilaines, donc voilà, et je pense que ça... Je sais pas, ça excitait les hommes de savoir qu'on était toutes les deux là-haut. Ils pensaient qu'on avait vraiment besoin d'un homme, voire même de plusieurs. Et donc, on avait de la visite régulièrement. Vous avez besoin de quelque chose, vous avez besoin d'un truc. Il se trouve qu'un des hommes du groupement, enfin, il y en avait déjà des gros dégueux, plus âgés, et puis un plus jeune, là, le vice-président. Il m'envoyait des messages régulièrement, mais vraiment même plusieurs fois par jour. Après, c'était du vrai harcèlement par message, qui voulait m'épouser, qui voulait élever des brebis avec moi, qui voulait machin. Et puis, moi, je l'envoyais bouler, en lui disant « Mais je suis pas du tout, je suis en couple avec une femme, je m'intéresse pas du tout, laisse-moi tranquille, etc. » Enfin, bon, voilà, j'étais assez claire là-dessus. Et... voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, cet éleveur-là est descendu chercher un agneau gras pour vendre. Donc, il nous a rejoint à la cabane, puis il est reparti avec un agneau. Et puis, on lui a demandé, en fait, on n'avait plus rien à manger, là, on était sur la fin de nos réserves. Et donc, on a demandé à cet éleveur s'il voulait bien nous déposer à Petite Supérette. C'est ce qu'il a fait, mais en fait, au dernier moment, il a appelé ses copains qui tiennent un restaurant d'altitude qui n'est pas ouvert l'été, mais l'hiver. Et donc, il l'aurait ouvert pour nous. Et en fait, on s'est tout de suite retrouvés dans un traquenard avec que des mecs qui nous ont mis à table, fait à manger et surtout fait boire pas mal d'alcool. Mais bon, c'est pas la première fois qu'on buvait des verres non plus. Le souci, c'est que... après, à l'issue de ce repas, en fait... On mon employeur me redescend avec ma compagne derrière qui dormait en fait, qui s'est endormie très vite dans la voiture et je trouvais ça étrange parce que ça fait jamais de sieste, jamais elle s'endort comme ça. Mais bon, du coup, je me disais je vais gérer pour nous deux, donc je tenais le cap et du coup je discutais avec lui. Puis à un moment, on voit les brebis qui étaient en train de chômer, donc de faire la sieste en crête, alors que la cabane était un peu plus basse. Et donc je lui dis, ben laisse-moi en crête rejoindre le troupeau, comme ça, quand elles ont fini de chômer, je redescends avec elles tranquillement, etc. Ça ne m'a pas traversé l'esprit, je m'en veux de me dire, je vais laisser ma compagne toute seule avec lui, en fait. Voilà, je me suis dit, par confiance en lui, c'est mon employeur. Bah, en fait, il a abusé d'elle. Il en a profité. Elle s'est fait droguer, en fait. Elle a perdu le contrôle d'elle-même. Et elle n'a pas su se défendre. Elle n'a pas su se débattre. Et donc, il a abusé d'elle, sauf que je ne l'ai pas su tout de suite. Moi, je suis redescendue avec le troupeau le soir. Elle n'était pas bien. Elle ne m'a rien dit. Le lendemain, elle n'était pas bien non plus, elle était toute blanche, elle ne disait rien. Et c'est que le surlendemain où j'ai vraiment insisté, je lui ai dit vraiment qu'est-ce qui se passe, dis-moi. Et elle a fini par me dire ben j'ai fait un cauchemar. Je lui ai dit c'est quoi ton cauchemar? Elle me dit j'ai été agressée par lui. Et je lui ai dit est-ce que c'est un cauchemar ou est-ce que c'est la réalité? Et elle m'a dit c'est la réalité. Voilà, j'ai tout de suite compris. Donc... Vraiment, c'était affreux de ce moment-là. À partir de ce moment-là, c'était le début de la fin. Malheureusement, pour le viol, ça a été classé sans suite par le parquet. Et la suite de ça, on était bien ensemble, mais on n'a pas réussi à passer le cap avec notre couple. Là, c'était trop lourd tout ce qu'on a dû subir. À cette époque, j'étais dans une association de bergers, donc moi j'ai expliqué ce qui s'était passé et plein d'autres nanas ont témoigné de elles aussi la pression, des comportements sexistes qu'elles pouvaient subir, certaines du viol aussi, d'autres beaucoup de vulnérabilité, beaucoup d'insécurité. Derrière, en fait, ça a enclenché tout un processus. Les associations se sont ralliées avec des jurys, se sont ralliées avec des syndicats pour permettre aux bergères d'avoir des numéros qu'elles puissent appeler, de ne pas se sentir seules. Des stages d'autodéfense féminin, etc. Enfin, il y a des listes noires d'employeurs où il ne faut pas aller. Justement, ils ont une réputation d'être des prédateurs. J'ai voulu remonter en montagne parce que je voulais essayer de réparer ça, en fait. Sauf que voilà, j'étais armée jusqu'aux dents, j'avais peur de tout, il n'y a pas un homme qui approchait ma cabane. Enfin, j'étais aux aguets et je me faisais une réputation de bergère pas commode pour même pas qu'on vienne m'aborder, quoi. Vraiment, et je devais bien comprendre que j'étais armée et qu'il fallait pas venir là-haut, en fait. C'était ma façon de tenir à distance les hommes. Et en fait, je me suis dit, il faut que je rentre en Ardèche et que je m'installe, je me mette à mon compte. Je veux m'affranchir du salariat, je veux m'affranchir de ce rapport patronat et ce rapport-là patriarcal. Et c'est vrai que du coup, je me suis lancée dans cette aventure de m'installer toute seule. Et puis voilà, j'ai commencé à monter mon troupeau, mon effectif et... Et aujourd'hui, j'ai une place dans un territoire, je me sens acceptée. Et j'ai plus le même rapport avec les hommes. Et aujourd'hui, du coup, que ce soit moi qui gère mon entreprise, que ce soit mon troupeau, et les hommes me respectent. Et moi, ça me fait du bien, ça, en fait, de sentir que j'ai ma place en tant que femme, une femme seule. Je suis la bergère du coin, en fait, de ce territoire. Mais je trouve ça chouette, j'ai pas besoin d'être chez moi, j'ai pas besoin d'avoir de la terre à mon nom, etc. Moi, ça me va très bien de passer avec les troupeaux, de pâturer là. J'aime aussi, en fait, sentir qu'il n'y a rien qui m'appartient, parce que comme ça, au moins, je suis pas à fond sur la terre, comme la plupart des propriétaires fonciers. Moi, tant que j'ai ma base de travail et ma petite maison, c'est tout ce que je voulais. Et puis, je l'ai aujourd'hui, donc... C'est bon, maintenant je veux juste continuer à exercer mon travail et continuer à aimer ce territoire, aimer les gens autour et puis m'épanouir comme ça, ouais.
Quand la dernière pièce est en place et que la figure du loup étincelle devant elle, la Wessera s'assoit près du feu et pense à la chanson qu'elle va chanter. Une fois que sa décision est prise, elle lève les bras au-dessus du squelette et commence son chant. À mesure qu'elle chante, les os se couvrent de chair, la chair de peau et la peau de poil. Elle continue à chanter et la créature prend vie, commence à respirer, sa queue se tend. Elle ouvre les yeux, puis d'un bond, quitte la cabane. Lors de sa course vertigineuse, à un moment, soit en raison de la vitesse, soit parce qu'elle pénètre dans les eaux d'un ruisseau pour le traverser, soit parce que la lune blesse directement l'un de ses flancs, le loup devient une femme qui court librement vers l'horizon, riant aux éclats. Telle est peut-être ta mission. Rassembler les os des jeunes filles, les recomposer, leur donner une voix pour les laisser ensuite courir librement, quel que soit l'endroit où elles doivent se rendre. Les jeunes mortes, chicas muertas, selva almada.
Je crois que quand on qualifie l'oppression, et notamment l'oppression patriarcale, la première chose qu'on dit, c'est j'étouffe. Véritablement. Et cet étouffement, la seule manière effectivement d'y mettre fin, c'est de trouver un air qui soit plus respirable. Et donc, comment je fais pour respirer dans un lieu où je ne peux pas fuir, en fait? Et d'une certaine façon, les femmes mortes justement sous la violence patriarcale, ce sont des femmes qui ne pouvait plus respirer et ne pouvait plus s'échapper. Respirer, encore une fois, c'est quelque chose où on a nécessairement besoin d'un milieu écologique, donc d'autres personnes, d'autres femmes qui soutiennent notre combat. Donc c'est indissociable en réalité d'une pensée, j'allais dire, écologique de la solidarité.
All of my books deal with this.
Jane Caputi, historienne états-unienne, autrice de The Age of Sex Crime.
Dans tous mes livres, je m'intéresse à la manière dont toutes les sortes de féminicides dans l'histoire, que ce soit le génocide des sorcières ou le traitement réservé aux femmes dans le système esclavagiste aux États-Unis, mais aussi les féminicides des femmes natives, ont été accompagnés de violences envers la terre de manière directe ou plus symbolique.
As well as conceptually, because of course we still speak of.
On parle de la terre mère.
And we talk also about.
Et on parle aussi du viol de la terre.
To dominate and control the feminine, whether the feminine.
Mais vous savez, je vois un parallèle entre les violences faites aux femmes et à la terre. Par exemple, avec l'invention des armes de destruction massive, le nucléaire ou avec l'extraction du gaz de schiste, si vous réfléchissez aux mots qu'on emploie, on parle de fracking, drilling, knucking, nailing, screwing, qu'on pourrait traduire peut-être par forer, clouer, fracturer, défoncer. Tous ces mots sont aussi de l'argot en anglais pour dire le mot « fuck ».
«
Fuck » veut dire à la fois « j'ai une relation sexuelle avec toi » et « je te détruis complètement ». La culture patriarcale a fusionné le sexe et la violence, littéralement bien sûr, en proposant un script sexuel fondé sur la violence, mais aussi dans son vocabulaire.
Donc, nous dealing with climate change right now, which is based on an extractivist fossil fuel economy.
Aujourd'hui, nous affrontons le réchauffement climatique à cause de l'industrie extractiviste, mais si vous regardez là où l'on extrait ces énergies fossiles du sol, ce sont les zones de violence les plus extrêmes contre les femmes. C'est le cas en particulier dans les réserves autochtones, aux États-Unis, au Canada. C'est un phénomène que l'on retrouve partout dans le monde. Je pense qu'on peut voir dans l'écocide, c'est-à-dire la destruction systémique des écosystèmes, un lien très fort avec le féminicide.
Dans un monde dans lequel la nature, les champs, les forêts sont détruits, où les mers, les rivières s'assèchent, il faut que les femmes puissent avoir accès à la terre, contrôler la nourriture qu'elles mangent et ne dépendent pas uniquement du marché mondial.
Sylvia Federici, universitaire états-unienne, autrice de « Réenchanter le monde ».
Je pense que nous pouvons réenchanter ce monde si nous réussissons à bâtir un nouveau système économique. Vous savez, le capitalisme nous sépare, nous isole dans nos quotidiens. Par exemple, avec l'invention de la famille nucléaire, avec cette idée de la vie privée, et que nous devons penser d'abord à nos intérêts et pas à ceux des autres. Le système capitalistique a créé un monde dans lequel nous devons vivre comme si nous étions toutes et tous des îles isolées.
Nous voyons maintenant l'opposé qui se passe, particulièrement par l'initiative des femmes.
Mais nous constatons aujourd'hui que c'est le contraire qui se produit, en particulier grâce à l'initiative des femmes. Nous commençons à prendre conscience qu'en nous rassemblant, nous obtenons tout d'abord un avantage économique, une possibilité d'accroître nos ressources, mais aussi la construction d'une force collective. Ainsi, on peut voir qu'en Amérique latine, certaines communautés qui ont été expulsées de leurs terres créent de nouvelles communautés, se réapproprient des territoires. Des femmes y prennent des décisions par le biais d'assemblées de quartiers. Par ces expériences collectives, elles réalisent que c'est là que résident leur force et leur possibilité de survivre. Tout ça leur donne plus de pouvoir pour négocier ou se battre avec le gouvernement local ou avec l'État qui exerce des violences contre elles. J'ai donc été très inspirée par ce que j'y ai vu. Cette transformation fait tomber les murs qui nous séparent, nous les femmes. Vous savez, beaucoup de femmes sont isolées dans leur maison. Je dirais même qu'elles y sont emprisonnées, confrontées seules à tous leurs problèmes. Mais je pense que tout cela est en train de changer et que nous vivons le début d'une révolution.
Falo de verão sobre o corpo, ácido gravando na pele, minuciosa flor do centeio.
Eu posso falar de la que la cosmovisión del cosmos pachamámico.
Là où je suis, où j'habite, la quebrada de Huamahuaca, dans la cordillère des Andes, il y a un cosmos qui s'appelle la Pachamama, ce qui veut dire la déesse terre-mère.
Rita Laura Segato, anthropologue argentino-brésilienne, autrice de La guerre aux femmes.
La cordillère de los Andes est une région cuyo...
C'est une région qui a gardé ses caractéristiques régionales et communales et, disons, une forme d'organisation en marge, propre au monde andin. Elle est imprégnée des époques même antérieures à l'organisation inca. Là où je vis, il y a une cérémonie deux fois l'an au cours de laquelle il s'agit de nourrir et de remercier la terre. Par exemple, Quand ils marquent leur lama ou leur chèvre, ils remercient la terre. Ce sont des rituels de réciprocité entre nous et la terre. Alors que, en Europe, c'est le capitalisme qui a gagné. Or, le capitalisme ne voit pas la réciprocité avec la nature comme un principe important. Il nous a habitués à voir la vie comme une chose. Et cette chosification de la vie modifie notre psyché de telle sorte que nous n'éprouvons plus de sentiments d'empathie. Comme dans les jeux vidéo, où c'est celui qui tue le plus de personnes et le plus vite qui gagne. En d'autres termes, nous considérons le monde, la nature, les espèces, les animaux et les autres êtres humains comme des choses. Je pense aussi que ce processus a commencé avec la conquête et la colonisation du monde par l'Europe. Parce que, vous voyez, la première chose que fait le colon, c'est de transformer la vie qu'il trouve sur ces autres continents en choses pour se les approprier. Parce qu'on ne peut s'approprier que des choses, on ne peut pas s'approprier la vie. C'est ce que sous-tend mon concept de pédagogie de la cruauté que j'ai utilisé pour penser les féminicides. Quel est donc l'antidote à cette pédagogie de la cruauté? Eh bien, c'est une contre-pédagogie de la cruauté fondée sur les liens. Pour moi, il n'y a que deux grands projets historiques en cours sur cette planète. L'un est le projet historique des choses, dans lequel la consommation demeure l'objectif principal, c'est-à-dire combien de choses suis-je capable de m'approprier, de posséder. Et à la fin de ce processus de chosification, il y a la réification et l'appropriation même des personnes. Et le deuxième, c'est le projet historique des liens. Repenser les liens est donc le seul remède à la cruauté.
Je crois très profondément que nous nous sommes trompés,
Christelle Tarot,
et que nous nous sommes trompés depuis l'origine. Et que, comme le dit Rita Laura Segato, il faut sortir de la préhistoire patriarcale de l'humanité dans laquelle nous stagnons. Alors, les premiers individus qui sont asphyxiés dans les régimes patriarcaux, ce sont ceux qui le subissent en priorité, et donc bien évidemment les femmes. Mais notons que... les régimes patriarcaux rendent aussi le monde assez irrespirable pour de très nombreux hommes. Et des hommes qui sont de plus en plus nombreux, en réalité. Parce que on ne peut pas simplement penser cette question avec les uns opposant les autres. D'ailleurs, soulignons que les femmes n'ont jamais fait la guerre aux hommes. Et je le dis souvent, mais je le pense très profondément, si les femmes étaient entrées en guerre contre les hommes, ils s'en seraient rendus compte parce que nous sommes beaucoup. Mais vraiment beaucoup.
Le langage est magique, le langage est puissant.
Jane Capiotti.
Nous avons commencé cette discussion en parlant de l'importance d'avoir un mot pour dire le féminicide, que c'est nécessaire pour nommer cette réalité et agir contre. Mais nous avons aussi besoin de mots qui évoquent la force et nous connectent les unes les uns aux autres. En chantant ou en utilisant ce que l'on peut considérer comme des mots magiques ou des mots particulièrement puissants, nous conjurons des énergies, nous nous renforçons nous-mêmes et nous nous rapprochons les uns des autres, nous invoquons ainsi de nouvelles réalités.
Honduran Lenca activist Berta Caceres,
je pense par exemple au mot de Berta Caceres, une militante hondurienne de la Lenca, qui était une importante féministe antipatriarcale, défenseuse des droits des indigènes, qui a été assassinée par les dirigeants d'une société de barrage. Elle avait déclaré que la terre nourricière nous appelait à mettre un terme aux prédations des industries minières qui détruisaient la rivière. Elle avait ajouté cette formule qui a fait le tour du monde. Ils pensaient nous enterrer, mais ils ne savaient pas que nous étions des graines. Cette phrase très puissante signifie que nous sommes la nature, Et que si la culture patriarcale a pour finalité l'apocalypse, la nature, elle, nous montre toujours qu'il y a une renaissance. Alors ils pourront bien essayer de nous tuer, nous, nous avons planté les graines. Et la révolte contre le patriarcat ne peut pas être arrêtée.
That cannot really be stopped.
Yes, riprendiamoci la vita.
Silvia Federici.
Take back our life.
Riprendiamoci la vita. Oui, reprenons nos vies.
That our life is taken away from
nos vies nous ont été enlevées.
That our life is all spent.
Nous passons nos vies à nous inquiéter et à travailler. À nous inquiéter et à travailler.
In this sense, we are being expropriated from our life.
Nous avons été expropriés de nos vies.
Riprendiamoci la vita.
Alors, reprenons nos vies.
Des roses de cristal crissettent et s'amollissent. Mon amour sans rival murmure des délices. Il prend ma taille ronde et ronronne sur elle. Et je lui gronde des menaces cruelles. L'opéra de vermeil s'échappant du laser emplit l'air de soleil et d'ombre passagère. Mais à que la vie est belle. Elle éblouit comme un battement d'ailes d'oiseau de paradis. Mais à que la vie est belle, quelquefois pour un rien, la divine immortelle dans le mal et le bien.
Merci à Hélène Frappa, Ouria Bentouami, Gita Ravamudan, Maëte Prompt, Jane Capiotti, Silvia Federici, Rita Laura Segato. Merci aussi à La Piaf, à Aminata Draman Traoré, Marie-Dène Lapalus, Camille Garbi et Émilie Serpossian. Lecture, Valérie Dachoud. Avec les voix de Maïwenn Guizhou, Clémence Alézard, Irma Vélez et Cécile Lafond. Conseillère scientifique, Christelle Tarot. Collaboration, Ilaria Castagna. Prise de son, Alexandre Dang, Andreas Jaffray, Sandrine Malon, Olivier Arnay et Victoria Asper. Documentation, Alice Signoret et Antoine Villoz. Archivina, Mylène Touché. Chargée de programme, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Johanna Bedeau. Féminicide, la guerre mondiale contre les femmes. Épisode 4, Ils voulaient nous enterrer. Un documentaire de Pauline Chanu, réalisé par Marie Placé. D'après l'ouvrage collectif Féminicide, une histoire mondiale, dirigé par Christelle Tarot et publié aux éditions La Découverte en 2022. Les pages web, c'est sur franceculture.fr et le podcast sur l'appli Radio France. Belle.